Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Le témoin de ce vendredi, Jacques Julliard et Paul Claudel.
Quand nous avons joué avec Edwige Feuillère, partage de midi, j'ai été présenté Edwige Feuillère à Claudel, n'est-ce pas ? Et alors, il a été bourru. Et en sortant, Edwige me dit, c'est fichu, il ne verra pas de moi. Et le lendemain, j'ai appris, c'est de Claudel, qu'il a été bourru parce qu'il avait été bouleversé, car elle lui ressemblait. À Isée, m'a-t-il dit. Et quand il venait assister aux représentations, à la fin, il venait couvert de larmes, me dire au revoir.
Vous voulez dire que vous aviez l'impression qu'il était replongé entièrement
dans son histoire.
Jean-Louis Barrault, quand on pense à Barrault, on pense évidemment à Claudel. Mais quand on dit Jacques Julliard, est-ce qu'on pense à Claudel ?
Bonjour Jacques Julliard, je voulais juste vous faire raconter une anecdote que nous avons vécue là, avant que vous n'entriez dans notre studio. Un jeune homme vous regardait, je lui ai dit c'est Jacques Julliard.
Ouais.
Non. Et après, il m'a demandé poliment de quoi on va parler ? Ouais. Paul Claudel ?
Et même ignorance. Ouais. Ce qui d'ailleurs m'a beaucoup rassuré, parce que s'il ignorait Claudel, il pouvait ignorer Julien. Hein, ouais.
Et alors, quand vous avez dit, vous y reviendrez, dans le fil de la conversation, que Claudel était resté vierge jusqu'à 32 ans,
ouais.
Le jeune homme alors ?
Alors là, il était complètement stupéfait. Il avait l'impression d'entrer dans un univers qu'il n'avait jamais connu.
Parce qu'il avait justement 32 ans. Alors, Julliard, c'est un éditorialiste, je dis ça pour le jeune homme que nous avons rencontré dans le hall, le Nouvel Observateur, maintenant Marianne, le Figaro, puis c'est un grand historien des luttes sociales et de la gauche. Et pour mieux baliser votre itinéraire, Jacques Julliard, vous nous proposez un choix de votre œuvre qui va des livres devenus des classiques à des textes plus dissimulés. C'est dans la collection Bouquins, un volume titré « L'esprit du peuple ». Et au beau milieu de cette autobiographie intellectuelle, on lit « 1987, deux nuits entières au Festival d'Avignon, le soulier de satin de Claudel, mis en scène par Antoine Vitez, pour moi, bouleversement absolu et sentiment de l'indépassable ». Votre rencontre avec Claudel n'a pas été fortuite, le destin avait préparé le terrain depuis longtemps, mais à partir de 1987, vous êtes aux aguets et vous saisissez tout ce qui se produit dans la vie posthume de Claudel. Alors, 2018, c'est l'année du 150e de l'écrivain, et vous avez déjà signé, à la fin de l'année dernière, la préface des lettres que Paul écrivait à Isée. On entendait Barrault parler d'Isée, Isée, Rosivetch, le nœud de la vie de Claudel, cette femme, ou plutôt l'amour adoré qu'il éprouva pour elle et qui fut la source de partage du midi, comme du soulier de satin. Claudel, à la vérité, c'était un rebelle qui a toujours hésité entre appel amoureux et vocation mystique. Et puis on parlera politique, il faut parler politique avec Julliard. C'était un homme de droite qui fut un ambassadeur de gauche. La multiplicité n'est pas faite pour vous déplaire à votre propre conseil d'administration intérieure. Il y a, dites-vous, une part de libertarisme, une part de traditionnalisme, une autre, peut-être majoritaire, de social-démocratie, mais ça peut varier. L'essentiel, c'est que la politique peut nous rendre meilleurs.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Jacques Julliard, dans Bouquin, ce livre que vous avez composé tout exprès pour les éditions Lafon, vous commencez par « D'où je viens ». Alors, vous venez de pas très loin de Brangues, même si votre famille a peu à voir avec le milieu de Claudel.
Voilà. Je suis installé dans le sud du Jura depuis beaucoup plus longtemps que Claudel s'est installé à Brangues. C'était de sa part un peu fortuit, alors que ma famille est là-bas, sur place, dans le Haut-Bugey.
Parce que lui, c'était un châtelain de récente extraction, tandis que vous êtes un républicain de vieille extraction.
Ah oui, oui. Je suis aussi vieux que la République à travers ma famille. Aussi longtemps que j'ai trouve des ancêtres et des papiers de famille, eh bien, on est du côté de la République et même de la Révolution. Donc, c'est une tradition politique très assurée, même si, entre-temps, on les voit un petit peu monarchistes sous la monarchie de Juillet.
On va parler du théâtre plus encore que de la politique. Vous découvrez le théâtre dans le grenier de votre grand-mère et avec l'illustration. Si on devait expliquer ce que c'est que l'illustration au jeune homme de tout à l'heure dans le hall, voilà. Vous diriez quoi ?
On lui dirait que c'est sous une forme qui était luxueuse pour l'époque, un grand mensuel glacé d'actualité et qui, comme son nom l'indique, comportait beaucoup d'illustrations, ce qui était nouveau pour l'époque. Et c'est là que je découvre un auteur à travers un titre qui m'avait frappé, Amphitryon 38, dont il se dégageait un érotisme léger et puis une manière de parler qui était tout à fait exceptionnelle. Et c'est comme ça que j'ai découvert Giraudoux, sans savoir que c'était un écrivain connu. Je ne l'ai appris que par la suite, mais à travers Electre, à travers Intermezzo, il a bercé mon adolescence.
Giraudoux qui donnait, on viendra à Claudel après, c'était pas nécessairement deux amis, non. Au théâtre, une grande mission.
Une grande mission qui est, au fond, l'éducation morale de la nation. Pour lui, le théâtre, c'était le lieu, c'est repris des Grecs, où la nation se donne en quelque sorte en spectacle à elle-même. Et à travers cet auto-spectacle, si je puis dire, eh bien, la nation apprend à se mieux connaître et à mieux se maîtriser et avoir une plus haute idée d'elle-même.
Alors, Claudel.
Alors, Claudel, c'est plus compliqué parce que ma famille, comme on vient de le dire, était, en dépit d'une mère très catholique, très convaincue, c'était une famille anticléricale. Et pour moi, Claudel, c'est tout ce que je détestais. C'était le cléricalisme, c'était le pétinisme. Ma famille avait été anti-pétiniste d'emblée. Lorsque un de mes amis radical et partageant tout à fait mes idées, un jour vient me voir et me dit « Écoute, on va enterrer après-demain Claudel à Brangues, c'est peut-être pas notre tasse de thé, mais enfin c'est un événement, si tu veux bien, on y va. » Et c'est comme ça que j'ai vu, et c'est comme ça aussi que la première fois, j'ai vu ce spectacle qui m'a toujours frappé à la fin de la messe, qui avait été présidée par le cardinal Gerlier, et à laquelle assistait Édouard Herriot, qui avait été un ami de Claudel, je vois Jean-Louis Barrault regagner sa voiture en sanglots. Or, Claudel n'était pas un homme qui suscitait une affectivité aussi forte. Enfin, j'entends le personnage Claudel, son œuvre aussi.
Alors, il meurt en 1955, oui, mais attendez... La conversion, je veux dire, le pilier de Notre-Dame, pour vous, c'est 87.
Oui.
Alors, c'était des nuits inoubliables. Vous n'avez pas été le seul à les considérer comme inoubliables. Moi aussi, Avignon, Vitesse, le soulier de satin, jusqu'à pas d'heure.
C'était pour moi l'expression de ce que j'avais déjà découvert à travers Giraudoux, c'est-à-dire le théâtre. Est un lieu qui vous arrache à vous-même. Et en vous arrachant à vous-même, peut-être vous fait découvrir chez vous quelque chose qui n'était pas ou dont vous ne saviez pas qu'il y était. Et j'y vais avec ma femme, j'y vais avec des amis, et puis vers 3h du matin, il déclare forfait. Et moi, je reste jusqu'à 10h du matin. Et je suis tellement bouleversé, ce théâtre qui d'habitude pour nous est associé à la nuit, à la soirée, ça se passe généralement entre 9h et 11h30 du soir ou minuit, et là à 10h du matin dans l'éclat de la cour d'honneur d'Avignon, c'est quelque chose qui me bouleverse tellement que je reviens le surlendemain, et à partir de là Je ne voudrais pas exagérer, mais le regard que j'ai porté sur moi-même, sur mes contemporains, sur le monde extérieur, a un peu changé. Et c'est là que le théâtre est quelque chose d'absolument inouï, que ni la littérature, ni le cinéma, ni aucune autre activité humaine ne peut vous donner. C'est cette manière, de, comme je le disais, de vous arracher à vous-même et de vous révéler autre chose.
Le théâtre comme une délivrance. Oui. Le soulier de satin, écrit notamment pendant l'ambassade au Japon dans les années 20, est le prolongement d'une pièce qui avait été écrite à partir de 1906, Partage de Midi, qu'a monté Jean-Louis Barrault aussi. Et je voudrais que vous nous racontiez l'histoire de cette pièce. Nous sommes en 1900. Si le jeune homme de tout à l'heure, j'avais une réflexe de l'amener, qu'est-ce que vous lui expliqueriez pour lui dire que 1900, c'est assez différent d'aujourd'hui, c'est pas la même temporalité?
C'est pas du tout la même temporalité. Le point de départ de cette affaire, c'est que il est consul, Paul Claudel est consul à Fuzhou, en Chine. Chine, et pour aller à Fuzhou, eh bien, il faut un mois. On prend le bateau, et le bateau est resté célèbre, c'est le...
L'Ernest Simons.
L'Ernest Simons.
Et sur ce bateau, nous dit le recteur Antoine, qui a préparé l'édition que vous préfacez des lettres de Claudel à sa maîtresse, il y a le jeune consul un peu empoté, il y a monsieur Francis Vetch, qui s'en va chercher fortune justement à Fuzhou avec quelques-uns des enfants qu'il a eus de sa femme, Rosalie Vetch, si belle. Et puis il y a le gouverneur Castagnier qui regagne son poste de résident au Cambodge.
Il y avait un monsieur Castagnier qui était résident supérieur, comme on disait à l'époque au Cambodge, qui était sur ce bateau, un méridional, facon, sympathique, etc. Et alors c'est admirable, il a dit à Claudel, dites vous êtes un peu sauvage vous, mais vous prendrez soin de cette femme qui est un peu seule. Ah tu parles s'il en a pris soin, mais bon. Mais Claudel était revêche, comme toujours, sur ce bateau, surtout sur les bateaux. Le bateau c'était l'occasion pour lui de se retirer. Alors Castagnier lui dit, allez. Ah mais il résistait. Rosalie, étant jeune, avait eu une blessure au talon. Un talon fragile. Et chaque fois qu'elle le pouvait, elle se dégageait de sa chaussure ou de son escarpin qu'elle prenait léger. Elle était sur son rocking chair. Alors, l'escarpin était resté en retrait. Castagnier fauche et va nicher le soulier dans la poche de la veste flottante du consul Claudel. Et là-dessus, on organise le jeu du soulier, etc., qui a fauché le soulier, etc. On le trouve dans la poche de Claudel.
Ah, le soulier, déjà, le thème du soulier, on y reviendra. Ce jeune consul un peu godiche et empêché et solitaire, si le jeune homme de tout à l'heure était là, vous lui diriez que la virginité, pour lui, 32 ans cependant. Comment dire, c'était une sorte de chance.
Mais... Quand j'ai repensé à ça, à l'itinéraire de Claudel, j'ai pensé à ce que dit Victor Hugo, je crois que c'est dans la préface de Cromwell, qu'un certain nombre de grands génies de l'humanité étaient vierges. Et il prend l'exemple de Saint Jean à Patmos. Il y a une forme de communication avec le monde et avec l'au-delà du monde qui passe par une certaine naïveté, une certaine nouveauté en matière affective, en matière érotique, en matière sexuelle en quelque sorte, et donc c'est très important chez Claudel. Et lorsqu'il découvre la femme avec un grand F, il a déjà écrit des tas de pièces où il y a des femmes, mais des femmes rêvées. Jamais des femmes réelles, ce sera toujours la même. Il découvre avec Rosie ou Rosalie la femme qu'il a toujours imaginée et qu'il a déjà si souvent mise en scène.
Une des dernières versions de Partage de Midi, on reviendra à Barrault 1948 un peu plus tard, c'est la version à la Comédie Française avec Éric Ruff. Nous sommes en 2017 dans le rôle de Paul Claudel, Méza, et Marina Hans dans le rôle d'Isée, c'est-à-dire Rosalie Vetch.
Qu'ai-je à faire de vous? Qu'avez-vous à faire de moi? Je vous dis que tout est fini. C'est vous, mais pas plus vous qu'aucune autre. Qu'est-ce qu'il y a à attendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre chez une femme? Qu'est-ce qu'elle vous donne, après tout, et ce qu'elle demande? Il faudrait se donner à elle tout entier. Et il n'y a absolument pas moyen, et à quoi est-ce que cela servirait? Il n'y a pas moyen de vous donner mon âme, Isée. C'est pourquoi je me suis tourné d'un autre côté. Et maintenant, pourquoi est-ce que vous venez me déranger? Pourquoi est-ce que vous venez me rechercher? Cela est cruel. Je sais que je ne vous plais point.
Ce n'est point cela, mais je ne vous comprends pas. Qui vous êtes? Qui ce que vous voulez? Qui ce qu'il faut être? Comment il faut que je me fasse avec vous? Vous êtes singulier. Ne faites point de grimaces. Oui, je crois que vous avez raison. Vous n'êtes pas un homme qui serait fait pour une femme et en qui elle se sente bien et sûre.
Cela est vrai, il me faut rester seule.
Il vaut mieux que nous arrivions et que nous ne restions pas ensemble davantage.
Pourquoi?
Et ce qui me frappe, c'est que notre jeune homme d'avant l'émission, de
le
tout
jeune
à
homme
l'heure,
du rôle.
Si on pouvait, faudrait qu'on l'amène un jour voir une pièce de Claudel, et notamment ce partage de midi, parce que tous les publics, chaque fois, sont en quelque sorte bouleversés, arrachés à eux-mêmes par la magie de la langue, qui est exceptionnelle, par la magie des situations aussi. Autrement dit, Claudel, qui est peut-être l'auteur le plus vieilli de nos génies littéraires, est en même temps, lorsqu'on le met en scène, celui qui transcende complètement les époques et le temps. Et lorsqu'il parle de l'amour, il en parle en des termes qui sont totalement intemporels.
1900, nous sommes en 1900-1901, ils vont vivre ensemble à Fucheu, au consulat, et ça va jaser, d'autant que le mari, il est toujours là, plus consentant.
Le mari est là, mais il va faire ses affaires, notamment en Indochine, et il confie sa femme à Paul Claudel, qui ne demande pas mieux que de s'occuper d'elle.
Trois ans,
il lui fait un enfant.
Et c'est quand elle est enceinte de cet enfant qui sera Louise,
oui,
qu'elle part.
Elle part. Alors, certains disent que c'était en accord avec Paul Claudel. Je crois que non. Et la version la plus vraisemblable, c'est qu'elle a voulu partir, je ne sais pas pourquoi, parce que elle avait envie de mettre fin à cette espèce d'envoûtement qu'ils vivaient tous les deux. Et puis, comme c'est une femme à la fois très brillante, très, très légère à certains égards, sur le bateau du retour, eh bien, elle se fait un nouvel amant.
C'est la tempête, il n'est pas loin du suicide, oui. Paul. Quand je parle de tempête, puisque tout se passe dans un bateau, voici une autre œuvre de Claudel sous forme d'oratorio, d'opéra même, Christophe Colomb.
Quand on a donné à la radio Christophe Colomb, il m'avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez voir les ressources de la radio, n'est-ce pas tout ce qu'on peut donner, vous allez voir la tempête, tout ce qu'on peut faire avec. Alors j'ai écouté, ils m'ont donné exactement ce qu'on donnerait à l'ambigu avec le vent qui souffle sous une porte, n'est-ce pas. On voit qu'ils n'ont jamais été dans une tempête. Moi je leur ai dit, j'ai été dans des typhons, et les typhons se portaient bien. Et bien sûr, ça ne ressemble pas du tout à ce que vous faites. Non. Puis alors, il faut concevoir ça artistiquement, il ne suffit pas de faire des bruits, n'est-ce pas. Puis alors, accentué par des bruits de verre, des bruits de verre qui tombent, et puis alors par des hurlements de femmes glapissantes, n'est-ce pas. Au pont, au pont, au pont, n'est-ce pas.
Voilà, c'est un enregistrement formidable de Paul Claudel, fait par Pierre Schaeffer et Jacques Madaul, qui, pour préparer la radio d'après la Libération, avait prélevé des disques de cire à la radio d'État de Vichy et sont allés enregistrer au début de 1944 dans son château de Brangues, Paul Claudel. Alors Jacques Julliard, dans votre livre « L'esprit du peuple », bouquin Lafon, livre des livres, et dans la préface aux lettres à Isée que vous donnez chez Gallimard, vous dites que le bateau, c'est essentiel.
Mais pas seulement parce qu'il y a la tempête. Tous les temps que vit le bateau sont essentiels. Vous proposez même de mettre bout à bout dans une représentation, Partage du Midi, dont on va parler, et le soulier de satin dont vous nous avez parlé.
Voilà, ça ferait une représentation de 15 à 17 heures, donc il faudrait renouer soit avec l'esprit de Bayreuth, soit avec l'esprit des Grecs anciens, c'est-à-dire faire du théâtre une vraie célébration de quelque chose et non un divertissement.
Comment ont-ils renoué, puisque vous parlez de renouement?
Alors voilà, à la suite de cela... Claudel est désespéré, il songe à mourir, et finalement, sur le conseil de son confesseur, il se marie. Ce qui est une autre manière de mourir pour lui. Enfin, au début, c'est ainsi qu'il considère les choses, même si après, il y a des accommodements. Et toujours est-il, c'est que pendant 15 ans, et il vit dans un quasi-désespoir, ce silence obstiné de Rosie. Et puis un beau jour, il est alors au Brésil, il reçoit une lettre. Cette lettre qui réapparaîtra dans son œuvre, dans le soulier de satin, et qui, dans le soulier de satin, met 10 ans à traverser l'Atlantique, depuis Rodrigue jusqu'à Prouez, et qui, dans la réalité, a mis plus de 10 ans. Et c'est-à-dire qu'au bout de 13 ou 14 ans, eh bien, il renoue. Et il y a ensuite une sorte de deuxième flambée, à la fois sentimentale et érotique d'ailleurs, entre eux. Entre-temps, il a fait carrière, il s'apprête à retourner en Extrême-Orient et au Japon en particulier.
Mais dans les lettres qui sont publiées, enfin, et que vous préfacez, je vois, il n'y a que les lettres de Paul. Hôtel Meurice, 1921, Paul écrit « Nous communierons ensemble et nous échangerons cette promesse sacrée pour le temps et pour l'éternité. » Mais en même temps, la communion et l'amour physique pouvaient aller de pair, même si le confesseur ne donnait pas l'absolution.
Oui, dans le soulier de satin, Prouez dit, en parlant de Rodrigue, « Est-ce qu'il connaîtra enfin ce goût que j'ai, que je suis ?» Et l'ange gardien dit, « Il faut laisser le corps un peu en arrière. » C'est à la fois ironique, mais c'est très significatif de Claudel. Quand une femme lui plaisait, et en réalité, bien qu'il ne fût pas beau, qui ressemblait plutôt à un notaire de province, il tombait assez volontiers amoureux, notamment des actrices qui représentaient ses héroïnes. Alors, dans un premier temps, il cherchait à les séduire, et il n'y parvenait pas, en général. Et dans un deuxième temps, en tout cas, il leur faisait la morale et voulait les convertir. C'est assez comique.
Notaire de province, alors on le voit, découpant ses actions, les coupons.
Oui.
Mais il y a beaucoup de questions d'argent dans ces lettres, mais pas de la façon dont on l'imagine. Il veut lui donner le maximum. Il dit sans arrêt à Isée, alors je te donnerai l'équivalent de la dot de mes filles.
Oui,
je me priverai de pain pour que tu aies un appartement.
Lui, il a donné beaucoup d'argent à la fin de sa vie à sa fille Louise et à son ancienne amie Rosivetch. Il est à la fois pingre et très généreux. C'est un être tout à fait contradictoire.
Il hésitera beaucoup à faire jouer Partage de Midi, représentation privée en 1916 avec F. Francis, dont il tombera platoniquement, c'est pas le mot qui convient pour lui, amoureux. Et c'est Jean-Louis Barrault, qui avait déjà monté le soulier, qui arrachera la décision de Claudel, 1948.
J'ai beaucoup insisté, et j'ai tellement insisté qu'un jour il m'a dit « Écoutez, revenez dans 3 jours, je vais demander à mon conseiller spirituel, c'est-à-dire son confesseur. » Et 3 jours après, je reviens et il me dit « Ah, vous voilà, tentateur. Eh bien, je vous donne Partage de Midi parce que j'ai obtenu l'autorisation que vous montiez Partage de Midi. » C'est mon confesseur qui m'a dit « Vous devriez accepter. » Alors j'ai demandé le numéro de téléphone du confesseur. Je lui ai aussitôt téléphoné. Et le confesseur m'a dit, mais quand Claudel m'a dit ça, j'ai dit, il faut absolument que vous laissiez le partage des médias à Jean-Louise. Ça fera beaucoup de bien aux spectateurs. Vous verrez, vous aurez beaucoup de conversions. Et ça n'était pas seulement catholique et religieux, c'était pudique. Et car, et comme je vous l'ai dit, au cours du travail que nous faisions autour de Partage de Midi, il m'a dit un jour, il y a des cris qu'un homme n'a pas le droit de pousser. N'est-ce pas? Et particulièrement à propos de la grande scène qui se passe au deuxième acte, il y a une frénésie érotique et passionnelle, n'est-ce pas, qui le gênait. Et alors, à ce moment-là, un jour, il m'a dit, je voudrais qu'on coupe ça, c'est épouvantable. C'est-à-dire... Et je lui ai répondu, ça ne vous appartient plus, vous avez écrit ça il y a plus de 40 ans, c'est dans le domaine.
C'est la scène dans le cimetière chinois.
C'est ouais. Ça, c'est dans le domaine. Et alors, quand j'ai eu l'air de lui dire que les questions sexuelles ne lui appartenaient plus, en tremblant du genou, il me dit, ah, vous croyez que ça ne m'appartient plus. Non, il était déchiré par cette histoire, qui était encore présente dans sa peau.
Entretien avec votre ami Guy Dumur de Jean-Louis Barrault, 1981, Jacques Julliard.
Oui, c'est vrai que cette pièce... La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Avignon. Le public qui ne connaissait pas bien Claudel était saisi, effectivement, par cette espèce d'érotisme sourd qui est tellement plus parlant que les mots crus que l'on emploie aujourd'hui. Il y a dedans un feu qui couve. Pour Claudel, il y avait trois choses qui comptaient. C'était Dieu, le théâtre et les femmes. Et donc, il y a là-dedans des mots que Claudel a voulu retirer. Il y a notamment une phrase où il dit « Il n'y a rien au-dessus de l'amour et pas vous-même », dit-il. C'est le héros qui s'adresse à Dieu. Et Claudel, dans l'édition suivante, parce qu'il a souvent remanié ses œuvres, a supprimé cette phrase. Mais elle existe. Et au-dessus de vous, il n'y a rien, et pas vous-même.
Dieu, les femmes et le théâtre. Je me demande si vous ne reprendriez pas cette trilogie votre endroit. Cependant, il y a la politique. Il a été ambassadeur. Oui. Et vous n'avez cessé de faire de la politique. Bouquin à la fond, 1100 pages, sauf les 25 consacrées à Claudel, sur la politique.
Oui.
Alors,
la politique, c'est un mot de Mounier auquel je me suis toujours référé. Il dit la politique est toujours urgente et elle est toujours subordonnée. Moi, je pense ça profondément. Je pense que la politique, on n'y échappe pas, elle est urgente, elle est à nos portes, elle peut prendre la forme même de la charité. Aujourd'hui, on a le problème des migrants, on voit très bien que le problème politique est aussi un problème moral et je dirais presque spirituel. Et en même temps, la politique, elle est toujours subordonnée, c'est-à-dire... qu'elle ne doit jamais être au premier rang. Voilà ce que j'ai toujours pensé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai jamais fait activement de la politique. Et je me suis réfugié, j'allais dire un peu lâchement, non. Mais je me suis réfugié dans le syndicalisme, à la fois comme acteur modeste et aussi comme historien du syndicalisme.
L'esprit du peuple, ce titre a un sens, comme le monde est un texte, aux éditions Lafond dans la collection Bouquins. Et Lettre à Isée, votre préface chez Gallimard. L'émission était préparée par Elinka Negulesco et Franck Olivard avec... à la réalisation Audrey Ripouille et la technique Juliette Delperroux.